débat est ouvert, donc dans la salle. Sylvie.
D'abord, un grand merci à Véronique, parce que justement, comme tu le disais aussi, c'est une enquête qui est à peine refroidie, en quelque sorte. Hein, vous n'avez pas encore la réception de cette enquête dans tous ces milieux. Ça sera intéressant aussi d'avoir ce retour, si tu peux me dire quelques mots déjà. Et puis aussi, tu mets le doigt et tout. Et le corps et l'équipe entière dans une voie qui nous intéresse beaucoup, c'est celle du rapport sociologie et droit. Alors, ce lien-là, on le travaille dans le cadre des axes du laboratoire avec Laurent et puis toute son équipe. Et c'est important de nous montrer de manière très empirique comment on peut sociologiser des dossiers, des questions, des objets sensibles et qui peuvent être peu éloignés de la sociologie, plutôt accaparés, pris par les juristes, bien entendu, hein, et par, tu disais, les psychologues, les psychiatres, etc. Donc la question que je me posais, c'était revenir un peu sur ce quoi vous avez discuté, nous avons discuté, c'est finalement l'apport sociologique, le regard sociologique sur ces dossiers, nous en dire plus peut-être, c'est plutôt des questions de précision, hein, sur l'équipe qui t'entoure, est-ce que c'est une équipe pluridisciplinaire et comment finalement ou pas, hein, et comment on aiguise le regard sociologique avec à côté un juriste et à ses côtés un psychologue ou un psychiatre, si c'est le cas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, nous en dire un peu plus sur finalement la lecture sociologique que tu peux donner sur ces dossiers, au-delà de la question de la classe sociale, du conflit, etc., la différence d'un collègue juriste qui pourrait apporter. J'avais aussi une question sur... on parlait du comparatisme international. Après, moi, j'ai un autre comparatisme à te proposer, évidemment. C'est avec d'autres affaires, d'autres cas, d'autres... Je pense au génocide, qui pose de la même manière, il me semble, enfin, toutes choses égales par ailleurs, la question de la judiciarisation et de toutes ces difficultés, la question de la reconnaissance de la victime. J'y ai pensé au moment où tu as parlé de la voie de la réparation. Je pensais au génocide rwandais où ça a été mis en place et nous avons quelques reculs par rapport à ça. Voilà, donc je me posais la question de ça, en quoi les affaires de viol peuvent être comparables à d'autres types de dossiers. Et puis j'avais une question... de m'arrêter, sur... Tu disais à un moment donné que le récit est fondamental. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur sa fabrique processuelle, comme tu nous disais au départ, un dossier, ça aussi, j'imagine que le récit aussi, et ce récit, il prend plusieurs formes, il se fabrique au cours du process, et est-ce que vous avez eu le temps, hein, on ne peut pas tout faire non plus, de voir un petit peu comment... ils évoluent et comment on peut les étudier en ce sens. Voilà, des questions à chaud, hein, sur le sujet que je connais.
Oui, peut-être présenter le groupe de recherche sur les génocides, pourquoi pas, mais je ne vais pas forcément rebondir là-dessus, encore que, oui, il pourrait y avoir des questions de la reconnaissance des victimes. La question des victimes, de façon générale, est quand même particulièrement problématique avec... en particulier en France, je trouve beaucoup d'effets d'annonce. En réalité, on fait jouer un peu à la justice. On insiste beaucoup sur sa fonction déclarative. On est en sentiment que le fait de déclarer à la justice des affaires suffit à les résoudre. On voit que c'est à peu près le contraire, de mon point de vue. En tout cas, à l'issue de ce travail qui peut arriver. Moi, j'hésiterai pas à dire qu'il y a en tout cas, pour rester sur les violences sexuelles et même plus largement, qu'on est clairement dans l'effet d'annonce d'un certain point de vue, à la limite de la démagogie d'un autre point de vue, où on n'a jamais autant, apparemment dans nos économies morales, en tout cas placé les victimes au centre des préoccupations, et ce, à peu près à la même époque, depuis les années 70, 80, 90. Dans les faits, le fait que, par exemple, à ma connaissance, il n'y ait pas de travaux, je ne parle pas des enquêtes de victimation, hein, qui ont bien évidemment leur mérite et leur utilité, mais qu'on n'ait pas juste simplement posé la question aux victimes, de savoir quelle suite elles avaient envie de donner à leur affaire après une violence physique ou sexuelle. Ça s'est fait un petit peu, j'exagère, dans le cadre des violences intraconjugales physiques. Voilà, donc, je sais qu'il y a des travaux qui ont été faits par des associations, qui ont été faits voilà, sur, parce qu'on sait la difficulté des femmes, des hommes en général sont des femmes qui subissent des violences de la part de leur conjoint, à partir, à lâcher, à se dégager de cette relation d'emprise. Et on commence à réfléchir sur la mise en œuvre des moyens pour les aider. Arrêter d'être dans une espèce d'accusation un peu binaire, tu es une victime, donc il faut que tu te dégages de l'auteur. Là aussi, comme disait Constance, au vu des situations qui sont parfois extrêmement problématiques et pas que sur le plan psychosociologique. Le groupe de recherche était constitué d'une dizaine de personnes, que des femmes, nous n'avons pas trouvé de garçons, sauf un étudiant, un doctorant, pardon, à Lille, avec un mélange de juristes et de sociologues. Pas de psy dans notre équipe. En revanche, et d'ailleurs on va voir ce que ça donne dans les rapports, parce qu'il y a un peu de tension là, dans la rédaction des rapports, et qui remet quoi et qui dit quoi. Et encore, je suis gentille sur le un peu de tension, mais bon, je referme la parenthèse. Alors bien évidemment, les juristes au fond, les juristes, si je puis dire, n'ont pas eu énormément d'éléments à se mettre sous la dent, parce que ce sont davantage des pratiques qu'on a étudiées. Des pratiques telles qu'elles sont retranscrites dans les dossiers, en plus. Hein. On n'a pas de matériaux de première main. Alors, les jurys sont extrêmement performants sur le droit, ce qu'ils disent, sur la jurisprudence, en revanche. Là où elles vont vraisemblablement nous aider dans leurs apports, c'est ce que tu appellerais la jurisprudence, c'est-à-dire l'histoire, au fond, de ces pratiques-là. Parce que c'est vrai que les pratiques judiciaires sont celles qui sont mises en œuvre dans les tribunaux, mais ce sont aussi celles de la jurisprudence et des décisions parfois étonnantes qui peuvent être prises. Dans le cadre de la jurisprudence. Donc là, je pense qu'elles vont avoir un vrai apport, parce qu'on a parfois des surprises, c'est comme ça que la loi avance, hein, c'est aussi par la jurisprudence. Et nous, sociologues, on est une minorité, d'ailleurs, dans cette équipe, c'est plutôt nous qui avons mis un peu de poil à gratter dans l'histoire, notamment en exhumant, si je puis dire, cette complexité psychosociologique qu'on a vue dans les dossiers, avec pour moi déjà un gros capital à la suite de la recherche qu'on avait faite sur les viols aux assises. On avait épluché 450 ou 460 affaires de viols aux assises, ce qui nous a fait lire plusieurs milliers de pages sur ces affaires. Donc le matériel est extrêmement riche. Le récit, c'est une notion que je pense capitale, de la même façon que Constance évoquait le soupçon. Le récit est central dans les affaires de viol. Dans la mesure où, dans la majorité des cas, on n'a pas de preuves tangibles, c'est-à-dire matériel, au fond, hein, comme rêverait d'en avoir un magistrat, c'est-à-dire le truc physique qui fait qu'on peut être absolument certain qu'il y a eu, d'une part, pénétration, d'autre part, en l'absence de consentement de la victime, c'est la minorité des affaires en réalité, sauf pour les mineurs de 15 ans et moins. J'ai oublié de préciser, pardonnez-moi, que la loi stipule que la question de consentement ne se pose pas en France pour les mineurs de 15 ans et moins. Donc on estime que toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur est de toute façon une infraction à la loi. Alors, on ne va pas aller poser la question du consentement pour des enfants de 10 ans ou de 12 ans, etc. Mais le récit est fondamental parce que, comme le disent les magistrats, comme c'est écrit, comme vous l'avez lu un nombre incalculable de fois, lorsqu'il n'y a pas de trace matérielle, et dans la majorité des cas, il n'y a pas de trace matérielle, lorsqu'il n'y a pas de témoin, et dans la quasi-totalité des cas, il n'y a pas de témoin, il reste quoi ? La parole de l'un et la parole de l'autre, donc on est en plein dans les récits. On n'est que dans les récits. Récits auxquels on va ajouter les récits des témoins, c'est-à-dire des membres de la famille, et au fond, la justice va élaborer son propre récit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a la vérité des faits, qui en soi est une sorte d'objectivité un peu plate, dont on ne peut rien dire tant qu'on ne la regarde pas. Il y a la vérité de la victime, il y a éventuellement celle de l'auteur, puis il y a la vérité, entre guillemets, judiciaire, qui se raconte son propre récit des faits. C'est parfois étonnant de lire des ordonnances de non-lieu ou des ordonnances de mise en accusation devant une cour d'assises, ou des réquisitoires définitifs de procureur, parce qu'il se raconte l'affaire. Il l'a fait à sa sauce, d'une certaine façon. Et là, on se dit, tiens, lui, il écrit ça, alors que moi, j'aurais pensé complètement autre chose. Mais au final, c'est cette parole-là, ce récit-là, qui vient effectivement, d'une certaine façon, rassembler, mais également distordre, augmenter, amplifier, relativiser, diminuer, minorer, les récits de tous les protagonistes, à commencer par ceux de la victime et par ceux de l'auteur. Donc au fond, un jugement, c'est un récit. J'ajoute qu'un procès en cour d'assises, ce sont des récits qui s'opposent, puisque, à part les professionnels de la cour, donc le président, les avocats et le ministère public, il n'y a pas accès à des pièces écrites dans un procès d'assises. Tout se fait à l'oral. Ce qui veut dire que, de nouveau, le récit peut être récité. Et on a pu voir, j'ai assisté à certains procès d'assises de viol, dont j'avais pu voir les dossiers, c'est un matériau, je l'ai fait deux fois, hein, ça, on, c'est pas non plus servi sur un plateau ce genre de matériau. Et ça c'est carrément extraordinaire parce que j'ai eu affaire à toutes les pièces de l'instruction et je vois ce qui est mis en scène, ce qui est théâtralisé au fond, des pièces de l'instruction à travers les récits des protagonistes. Et là, parfois j'avais les yeux qui sortaient en me disant « Où est-ce qu'ils ont été pêchés un truc pareil ?» Donc la mise en récit, elle est en plus redoublée aux assises. Hein. Ça c'est lié à l'histoire des cours d'assises. Donc on est en plein dedans. Peut-on en sortir? Je n'en suis pas certaine. Je n'en suis pas certaine. C'est pour ça que je le répète, que pour une victime qui arrive avec son récit des faits, alors déjà quand elle entend récit des faits, elle doit se dire, c'est quoi ce truc? Parce que j'ai été victime d'un viol. Et on voit l'habilité de la notion du statut de victime. Que l'on imagine gravé dans le marbre avec une sorte d'empathie généralisée aujourd'hui à l'égard des victimes, en réalité qui est faillible de partout, notamment de la part de l'institution judiciaire. D'où le parcours du combattant des victimes pour des affaires de viol.
Ils demandent qu'ils aient réussi, puis ils l'auront.
Donc,
merci.
On voit bien la complexité de la chose et aussi le milieu culturel. Par exemple, dans les années 60, il y a eu plusieurs cas de vol très médiatisés où on dit que ça m'échappe maintenant, le nom de cette en scène
Polanski.
Ouais, c'est ça. Alors il dit, et c'est pas le seul cas, mais il dit oui, mais à cette époque-là, bon, bien sûr que la victime avait 13 ans à l'époque, mais à cette époque-là, c'était différent, et puis tout le monde. Bon, et effectivement, donc c'est un élément qui rentre en jeu le milieu de l'époque, enfin, le milieu culturel de l'époque. Si la même chose aurait lieu aujourd'hui, en 2016, le regard est autre que dans cette époque. Ça, c'est une chose que j'ai voulu évoquer pour savoir si vous avez eu un cas semblable. Et aussi, en même temps, en évoquant le cas de Bill Cosby, qui était très, très, très médiatisé aux États-Unis. Donc, c'est le comédien qui a maintenant près de 80 ans, quelque chose comme ça, vous voyez.
Non.
Très médiatisé. Donc, c'est un comédien qui a joué beaucoup à la télé, des séries super connues. Mais alors, il y avait une vingtaine ou pas plus de femmes qui ont dit que, pas mineures à l'époque, mais peut-être presque, ou autres, elles étaient violées par cette personne, mais que la prescription, parfois, n'était plus analysée, ou des fois, c'était encore dans les, je sais pas combien, et du coup, la loi en Californie a changé. La loi a changé qu'il n'y a plus aucune, en tout cas c'est devant la justice maintenant, mais qu'il n'y a plus aucune prescription de délai du temps s'il y avait un viol en 50 ans plus tard, on peut porter plainte. Et donc, j'ai voulu juste mettre cet élément-là de le milieu culturel qui change aussi, et le fait qu'on peut avoir un cas comme ça médiatisé dans partout aux États-Unis, mais qui en effet a une écho, a un écho dans l'élaboration de la loi.
Oui, vous avez parfaitement raison sur le milieu culturel ou les époques, pourrait-on dire. En plus, c'est clair que les années 60, 70, moi je dirais le changement, c'est en gros le début des années 80. Rappelez-vous, pour ceux qui l'ont oublié, qu'il y avait à cette époque des mouvements de défense de la pédophilie, au nom de la liberté sexuelle des enfants, par exemple. Et l'affaire Polanski, l'affaire, il y en a un certain nombre comme ça qui ont été médiatisés aux États-Unis et en France aussi. Ça n'a pas duré très très longtemps. Alors, c'était dans la foulée et dans la lignée, un peu avant, un peu après, les 68, les mouvements de libération sexuelle, etc. Il y a eu, ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, il y a eu notamment dans la presse et dans la littérature homosexuelle, mais avec des grands noms, Sartre, De Beauvoir, Foucault, Morin, etc., qui avaient pris parti, donc des grands intellectuels français de l'époque, qui avaient pris la défense d'hommes qui étaient accusés d'agression sexuelle ou de viol sur des adolescents en général, et leur défense était la liberté sexuelle des enfants, ce qui nous paraîtrait aujourd'hui, alors pour le coup, on voit combien en 30-40 ans, on a radicalement changé de point de vue, dans une lignée un peu des travaux freudiens aussi, parlant de la sexualité des enfants, etc. Bref, un joyeux mélange de références à gauche à droite. Et moi, je dirais que oui, alors, le feu de ce mouvement, c'était toute la décennie 70, c'était aussi la naissance, si je puis dire, et le grand mouvement aussi de la littérature homosexuelle, de la presse homosexuelle, etc. Et donc, dès les années 80, assez rapidement d'ailleurs, on voit un retour de bâton, c'est pas moral hein, ce que je dis là, en tout cas un changement, si bien qu'aujourd'hui il serait absolument impensable, j'imagine, que quelqu'un puisse encore dire, puisse parler de liberté sexuelle des enfants, au nom de laquelle, du coup, on pourrait s'autoriser des relations sexuelles avec les enfants. Néanmoins, la loi laisse un espace, en deçà de 15 ans, en France, c'est plus toléré. Hein. Un majeur ne peut plus avoir de relation, ne peut pas avoir de relations sexuelles avec un mineur. Reste l'espace 15 à 18 ans, où des 15-18 ans peuvent avoir des relations sexuelles avec des moins de 15 ans. Et là, la loi est un peu gênée aux entournures, parce que ce ne sont pas des majeurs. Donc, l'interdiction ne pèse pas sur eux, sauf s'ils sont en rapport d'autorité avec au moins 15 ans, le grand frère par rapport à la petite sœur, etc. Mais par exemple, entre deux ados, dont l'un aurait moins de 15 ans et l'autre 17 ans et demi, ce sont des affaires en général sur lesquelles les magistrats s'arrachent les cheveux parce que la loi ne l'interdit pas. Et du coup, la question du consentement se repose. Voilà, c'est la seule occurrence où. Mais bon, très clairement, la question d'époque se pose et il est assez frappant de voir combien en 40 ans. Alors certains disent c'est le retour de l'ordre moral, d'autres disent on est allé trop loin dans le mouvement de la libération, enfin dans le mouvement de libération sexuelle. On voit bien hein, tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière, mais il est évident que certains ont vu des affaires largement médiatisées les rattraper, si je puis dire, pour les raisons que tu viens d'évoquer, oui, très clairement. Alors dans les dossiers, non. Cela étant, quand les interlocuteurs que nous avons eus disent on est aujourd'hui envahi par des affaires de viol. On voit bien comment le niveau de tolérance commun, si je puis dire, dans les valeurs qui sont les nôtres, la justice étant aussi la chambre d'enregistrement des mentalités et des valeurs d'une époque, la chambre d'écho en tout cas, et d'enregistrement, on voit bien comment aujourd'hui les violences sexuelles sont devenues, a fortiori lorsqu'elles sont commises sur des enfants, quelque chose comme le crime absolu. Ça doit être à peu près ça aujourd'hui. Vraisemblablement peut-être même plus loin que l'homicide. Alors, peut-être pas l'homicide porté sur enfant, mais quand on regarde... la teneur morale aujourd'hui qui est portée sur les violences sexuelles, surtout les violences sexuelles, ça a toujours été vrai dans l'histoire, hein, mais particulièrement aujourd'hui, c'est absolument inimaginable d'imaginer le cas que tu viens d'évoquer là. Voilà, ça c'est certain.
Non. C'est des remarques en frappe aussi. Bon, d'abord, merci beaucoup. On apprend plein de choses pour éclairer les décisions judiciaires. La question de départ qui est posée, mais en même temps, on voit bien que c'est pas la seule. Alors, j'ai serré mon barque d'abord, c'est dans le film d'exposition que tu as fait. Si tu peux en dire un tout petit peu plus quand même sur le dispositif des trois équipes ou les nombres de dossiers, parce que tu as fait absolument zéro chiffre finalement, donc c'est un petit peu gênant. Ou quand on en a, il était, c'est mon deuxième pouvoir qui n'était pas complet, tu dis deux tiers des affaires sont classées. Alors, oui, tu partages ensuite entre les professionnalisations et. On a des ordres de grandeur un petit peu clairs en tête. Tu as évoqué aussi un certain nombre d'affaires dans lesquelles vous n'arriviez pas à comprendre, à mettre des raisons, des logiques sur la décision, etc. C'est marginal, et c'est quand même un cas de figure qui revient assez souvent. On remarque aussi tout à fait, on remarque au détail qu'il y avait une question plus générale, même si elle a déjà été évoquée. Quand tu évoques la voie civile, la réparation, donc un argument qui vient tout de suite, c'est que s'il s'agit toujours principalement des gens les moins fortunés, qui sont dans le cas de beaucoup de cas, donc c'est de réparation qui est avancée, bon, mais c'est pas que je réponds à ça maintenant, hein, c'est juste comme bien. Du coup, la question de la solvabilité me renvoie à la question des classes sociales qui a été posée. Quel dommage, quand même, si cette dimension-là qu'on avait montrée jadis si importante, quand même, disparaît totalement dans cette histoire-là, quoi. Hein, en particulier, alors en lien avec une autre question que je me posais aussi, qui ne se trouve pas forcément dans les dossiers, mais peut-être dans les récits, qui est sur la médiatisation plus ou moins grande, localement, des affaires, qui donc vont toucher cette question de notabilité locale. Peut-être c'est pas. Effectivement, si ce n'est pas un type d'information que vous avez demandé, ça disparaît, mais bon, c'est ça dommage. Alors, sur les autres questions, pour l'instant, ce n'est pas forcément pour maintenant, hein, c'est des remarques. De classer les choses comme tu as fait, c'est à la fois donc, extrêmement riche d'informations, hein, les raisons liées aux faits, aux victimes, aux auteurs ou au fonctionnement judiciaire lui-même. Mais alors, du coup, disparaît également ce qui était, moi je trouve, un des résultats majeurs de ton livre de 2011, hein, à savoir quand même la typologie, les types de viols extrêmement différents dont il est question, qui ne posent pas du tout les mêmes enjeux. Le viol d'un violeur récidiviste sortant de prison, etc., machin, a très rien à voir avec la séquence de viol conjugal chronique et épidémique, qu'il y en a plusieurs que tu as évoquées, ou encore avec les pères incestueux, le grand-père. Bon, alors, ces raisons-là, au fond, tu les as données en vrac. Il me manque dans tout ça une organisation, une hiérarchisation à la fois des raisons elles-mêmes, tu vois, puis selon les types d'affaires, j'imagine que ce n'est pas les mêmes. Bon, voilà. On se ressort, enfin, en tout cas, moi, ça me posait beaucoup de questions en t'entendant sur où ranger, dans quel cas, dans quel lieu, et comment. Bah, une typologie autre que simplement une liste qu'on organisait comme ça. Une autre question qui m'est venue, bon, j'ai pris une réflexion en passant, hein, tout ça, une fois de plus, renforce les analyses qu'on peut avoir sur la prééminence du parquet sur l'ensemble des décisions. Quand même, c'est encore un argument de plus par rapport à ce qu'on a déjà, hein, pour ceux qui s'intéressent à la sociologie. Du monde judiciaire. Du coup, je me suis demandé aussi, c'est un détail, mais lorsque le dossier finalement est confié à un juge d'instruction, effectivement, peut prononcer des non-lieux, donc classer au fond à son tour, mais ça arrive dans combien de cas, plus, alors, on n'a pas beaucoup de données. Est-ce que c'est tout à fait marginal, ou est-ce que néanmoins, il y a une deuxième étape aussi liée à ça? Est-ce que c'est pour les mêmes raisons, grosso modo, que celles qui ont été classées dans les autres affaires? C'est ma question qui vient. Je me demandais aussi s'il y avait des différences que vous avez pu observer entre les trois juridictions. Il y a aussi un certain nombre de travaux, donc il y a des éléments de politique pénale locale, d'ambiance pénale locale, par ailleurs des bons vieux présupposés géographico-psychosociologiques qui passent sur le Nord, il y a un tas de trucs qu'on pourrait faire intervenir dans l'analyse pour demander s'il y a des différences entre Nîmes, Lille et Nantes. Je me demandais aussi, toi ça en va bien, ce que tu veux. Je me demandais aussi si j'arrive à me relire. Oui, j'avais juste un petit commentaire sur la logique du soupçon et du coup la difficulté pour les victimes qui en découlent. Il faut voir que depuis les années 80, les officiers de police judiciaire sont en permanence formés à ça. On insiste beaucoup là-dessus, on insiste sur le fait que les aveux ne suffisent pas. Attention aux aveux, attention à la parole, etc. Mais on a plus de micro encore, il n'y a pas longtemps, on va faire un petit peu, voir comment la police judiciaire elle-même s'est réorganisée parfois à la suite de certains fiascos, les gendarmes, c'est l'affaire du petit Grégory, etc. Lorsque les enquêteurs se sont trop laissés aller à l'empathie ou ont enquêté à charge. Hein, bon. Donc c'est logique qu'il y ait cette logique de soupçon. La seule façon, en mon sens, de le contourner, c'est ce que tu as évoqué à un moment donné, à savoir l'accueil dans le commissariat, peut-être qu'il y a autre chose qu'un policier ou un gendarme en premier interlocuteur. C'est ce qui, à mon sens, serait mieux pour les victimes. Mais il ne faudrait surtout pas revenir sur le bien fondé sur ce que j'ai soupçon de la part de l'enquêteur, plus même de l'instructeur. C'est la garantie d'écouter, parce que c'est fondamental, pour ne pas retomber dans les errements de l'empathie. Bon. Et puis enfin, j'avais pour ma part, une explication globale à cette énigme. Hein. Comment se fait-il, je reviens au point de départ, hein, même globalement, aux deux énigmes que tu poses d'ailleurs. Hein. Et mon explication, c'est la suivante. Quand on regarde, si on repart je rappelle à tout le monde d'ailleurs, si on repart de la typologie que tu avais fait dans le bouquin de 2011, il y a des types de viols extrêmement différents. Très rapidement, il y a tout ce qui est globalement de l'ordre de l'inceste, tout ce qui est globalement de l'ordre du viol conjugal, tout ce qui est globalement, il y a moins fréquent, bien sûr, le cas des viols collectifs, enfin, tout très particulier, et puis les autres viols de plus faible connaissance, si je veux dire. Je ne peux pas démontrer, sauf d'avoir fait un truc apprenant, mais au vu ce que moi je vois par ailleurs, sur d'autres types de violences physiques, par exemple, je mets ma main à couper, que ce qui a le plus augmenté dans ces flux qui arrivent vers la justice, ce sont les incestes et les viols conjugaux. Or, ce sont par ailleurs les plus délicats, les plus difficiles à binariser, comme tu dis. D'où, pour moi, une explication majeure au fait qu'effectivement, on ne débouche pas davantage d'assises, on retrouve un certain nombre de vieux problèmes classiques, etc. Je pense que c'est massivement lié à ça. Ce qui est de plus en plus judiciarisé, ce n'est pas les viols en général, c'est certains types de viols en particulier qui sont justement les plus délicats.
Bon, alors je vais avoir des soucis sur les chiffres, d'abord parce que j'avais décidé de ne pas donner de chiffres, donc je n'ai pas amené les chiffres. Donc c'est une raison qui est valable. Au niveau national, de quoi dispose-t-on ? Au niveau national, on a, toutes juridictions confondues, donc, le taux de classement des affaires de viol. Ça, on l'a. 68%, quelque part. Mais en gros, les deux tiers. Un peu plus que les deux tiers. En revanche, ce qu'on n'a pas, et ce que le ministère de la Justice, pour l'instant, ne peut pas, ne veut pas, ne sait pas, c'est à l'issue de l'instruction, que se passe-t-il ? On ne sait pas aujourd'hui la proportion, à l'échelle nationale, la proportion de non-lieu, la proportion de dossiers envoyés au tribunal correctionnel après instruction et par déduction, la proportion de viols envoyés aux assises. Voilà. On sait au niveau national ceux qui vont partir en instruction, et il suffit d'enlever ceux qui sont classés et ceux qui restent. On sait ceux qui vont vers les mineurs, ce qui nous donne une indication tout simplement sur la proportion d'affaires avec des auteurs mineurs, et on sait ceux qui sont envoyés devant un tribunal correctionnel. Mais on ne connaît pas les non-lieux, et dans ceux qui sont envoyés au tribunal correctionnel, on ne sait pas si, c'est un vrai bordel qui est statistique, on ne sait pas si c'est à l'issue de l'instruction ou pas à l'issue de l'instruction. Et après avoir insisté auprès des services statistiques du ministère de la Justice, la réponse qui m'a été faite, c'est on ne sait pas. Voilà, donc on connaît le taux de classement. C'est-à-dire, la première information de ce travail, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la correctionnalisation du tout qui prime, c'est le classement des affaires. Qui n'est pas non plus étonnant, ce n'est pas un scoop. Alors, à la mesure où, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble du champ infractionnel fait l'objet, de toute façon, d'une opération de classement. La deuxième difficulté, c'est que pour nos juridictions, nous ne sommes pas sûrs d'avoir eu affaire à l'intégralité des dossiers. Du coup, les statistiques s'en trouvent trompées, d'une certaine façon. La seule juridiction dans laquelle nous avons l'intégralité des dossiers, et encore je ne suis pas certaine, c'est la juridiction de Lille. Nous avons les affaires classées, les affaires envoyées au TC sans instruction, les affaires envoyées au tribunal correctionnel après instruction, les affaires non-lieu, les affaires assises. Nous n'avons pas les dossiers mineurs, donc déjà on les écarte de la chaîne. Nous n'avons pas les dossiers frappés d'appel, donc on les écarte de la chaîne. Et l'équipe lilloise n'est pas du tout persuadée qu'elle a pu avoir accès à tous les dossiers, parce que c'est un poème quand même, les archives de la justice, tu le sais, tu travailles dessus, et que entre ce qu'on nous donne à voir en disant voilà les dossiers de cette année et ce qu'on peut parfois découvrir, il y en a dans les bureaux des magistrats, il y en a qui sont restés dans un coin des archives, enfin c'est une véritable cacophonie de ce point de vue-là, ce qui fait que on peut donner des estimations du ratio à faire classer, à faire non-lieu, à faire juger au tribunal correctionnel avant ou après instruction, à faire assise à Lille. Mais moi, je vais appeler ça une estimation chiffrée avec beaucoup de prudence dans le rapport que je remettrai. Alors, en gros, on retrouve nos deux tiers d'affaires classées. On va retrouver, au final, on a nos 13% d'affaires qui arrivent aux assises. Je ne faisais pas là les chiffres, hein, mais je pourrais les donner précisément. Elles figureront dans le rapport. Mais je suis un peu embêtée avec ces chiffres. Parce que quelle est notre unité de base, tu vois, si on était sûr d'avoir accès à l'entièreté des dossiers, ce ne serait pas un souci. Or, je suis loin d'être convaincue de ça. Alors, tu as parfaitement raison sur le fait que je l'avais dit, d'ailleurs, je n'entre pas dans les dossiers classés, les dossiers tribunal correctionnel, les dossiers non-lieu, parce que tous les motifs de classement que j'ai évoqués là, en réalité, sont plus ou moins d'importance en fonction de la filière pénale. Par exemple, tout ce que j'appelle l'altération de la conscience, c'est-à-dire des victimes sous emprise d'alcool, de drogue, ou des victimes en état mental problématique, etc., c'est surtout dans les dossiers classés. Donc en fait, ce travail-là, je l'ai fait à chaque fois pour chaque filière pénale. C'est-à-dire, j'ai relevé pour chaque filière pénale les motifs qui semblaient, c'est pas statistique, parce qu'on ne peut pas statistiser ça, qui semblaient les plus souvent utilisés ou les plus opérants pour chaque catégorie de dossier. Par exemple, les faits. J'ai été frappée de voir que dans la majorité des dossiers classés, la question des faits ne se pose quasiment jamais. La question de la pénétration ne se pose pas. La question du consentement peut se poser, puisque comme je l'ai dit, on est presque en deçà des faits dans les dossiers classés. Dans la mesure où bien souvent des victimes n'arrivent pas à élaborer un lien, ou alors on a des victimes, on a beaucoup d'affaires conjugales dans les dossiers classés, hein, c'est la proportion la plus importante des affaires classées. Dans la mesure où on a aussi des victimes qui se retirent ou qui se désistent, les enquêteurs ne vont pas investiguer sur les faits. Donc au final, on a très peu d'informations sur les faits, au sens type de pénétration, et quel type de contrainte menace surprise aux violences dans les affaires classées. C'est pour ça que je dis que ce sont des non-objets pénaux, puisqu'il n'y a même pas de démarrage de l'investigation d'une certaine façon. Voilà. Alors ça, ça figurera dans le document, et catégorie par catégorie. En revanche, on voit très bien que pour les dossiers classés, on a par exemple dans les dossiers qui sont envoyés directement au tribunal correctionnel, là pour le coup il y a des éléments objectivables, 75% des affaires sont uniquement des pénétrations digitales. En revanche, le chiffre baisse à un tiers pour les affaires envoyées au tribunal correctionnel après instruction et à 5% pour les affaires envoyées aux assises. Idem pour les tentatives de viol, idem pour les pénétrations passives. Si on prend à contrario, quand on prend les pénétrations vaginales péniennes, pour reprendre ça, on s'aperçoit que celles qui sont attestées dans les dossiers, à 80% dans les affaires correctionnalisées, ce sont juste des tentatives de pénétration vaginale pénienne. Voilà. On a sur différents éléments des choses qui sont quantifiables et qui feront l'objet du rapport de façon extrêmement sérieuse. Mais là, j'avais peur de perdre en chemin, si je puis dire, les participants à ce séminaire, parce que c'est quand même une sacrée bouillabaisse, quoi, hein, ces histoires de dossiers. Voilà, donc, et puis, effectivement, on peut retrouver, à la limite, on pourrait presque faire une typologie de viol dans chacune des filières pénales. Voilà. Il y a une typologie qui se dégage très clairement dans les dossiers classiques, il y en a une autre qui se dégage dans les dossiers correctionnalisés. Les dossiers d'assises, au final, on n'en a qu'une petite vingtaine sur nos trois juridictions. Donc, je ne vais pas non plus m'amuser à me lancer dans une grande typologie sur 20 dossiers, ça n'a strictement aucun sens. Le vrai matériau, ce sont les dossiers classés dans cette recherche. C'est là où on en a 240, quelque chose comme ça. Hein. 250 sur je ne sais plus combien. 168 plus 1, 230 sur en tout 377 dossiers. Donc le gros du travail, de toute façon, y compris quantitatif, ce que j'appelle les estimations chiffrées, tellement j'y vais avec des demi-orteils, porteront notamment sur ce type de dossier. Je pense que ce que tu dis sur le fait que ce ne sont pas tous les viols qui sont pareillement dénoncés, effectivement, on l'avait déjà notamment un peu montré dans notre recherche sur les viols. Je serais assez d'accord avec toi sur l'augmentation des viols intrafamiliaux. Je serais beaucoup plus prudent sur l'augmentation des viols conjugaux. Je ne suis pas certaine du tout, mais encore faudrait-il pouvoir le montrer, qu'il y ait une augmentation de la dénonciation des viols conjugaux. Je ne dis pas moins, je ne dis pas autant. Mais il est clair qu'on en trouve beaucoup plus en affaires classées qu'en affaires d'assises. On n'a quasiment aucune affaire de viol conjugal aux assises. Je le dis sur la base de la seule enquête qui, à ma connaissance, celle qui a été faite par CVS ou NDRP sur les violences sensibles, ce qu'ils appellent violences sensibles, hein, c'est-à-dire les violences physiques et sexuelles hors ménage et des violences physiques et sexuelles intra-ménage. Et on s'aperçoit que plus on va vers les violences sexuelles intra-ménage, plus le taux de plainte baisse. Je vais vite, là, comme si tout le monde savait de quoi je parlais. Il y a une enquête qui a été faite hein, dans le cadre de vie et sécurité, une enquête de victimation qui porte sur un certain nombre de victimations subies par des victimes. Et en 2010 ou 11, je crois, je me souviens plus, 12 peut-être, pardonnez-moi, on a posé, à ma connaissance, pour une rare fois à l'échelle nationale, la question de savoir ce que les victimes avaient fait après. Est-ce qu'elles sont allées voir les médecins? Est-ce qu'elles en ont parlé autour d'elles? Est-ce qu'elles ont appelé une association de victimes? Et est-ce qu'elles sont allées déclarer? Bref. Et il y avait l'occurrence, êtes-vous allé dénoncer l'affaire auprès d'un commissariat de police ou d'une brigade de gendarmerie? Et on s'aperçoit que le taux de plainte est en gros 10% pour toutes ces violences dites sensibles, donc on retrouve notre 10%, 10 à 15%, mais les violences sexuelles intra-conjugales, on tombe à 2%. C'est-à-dire 2% des victimes violées par leur conjoint au moment où leur conjoint vivait avec elles disent, dans cette enquête-là, seulement 2% d'entre elles disent avoir porté leur affaire en justice. Donc je ne suis pas certaine du tout, pour ma part, qu'il y ait une augmentation des viols conjugaux portés à la connaissance de la justice. À vérifier. Hein. Autant je te suis sur les viols intrafamiliaux, autant je ne suis pas sûre sur les viols conjugaux. Et oui, là, par contre, je te suis, ce sont les moins binarisables, c'est évident. Juste cet élément, parce que tu me disais au fond, quoi d'autre sur les affaires de réparation, la question de la solvabilité. Un point important, je ne l'approfondirai pas, mais j'ai trouvé ça très intéressant sur l'ordonnance de protection. Pour la première fois, dans le cadre de la loi de 2010 sur les violences faites spécifiquement aux femmes et aux enfants, dans le cadre conjugal, elle formulait un peu différemment, mais il est très long le titre de la loi. Pour la première fois, il y a possibilité pour un juge aux affaires familiales, donc un juge au civil, d'au fond d'avoir une sorte de fonction pénale. C'est-à-dire que pour la première fois, parce que c'était réclamé depuis très longtemps, le juge aux affaires familiales peut statuer sur le partage de la résidence commune du conjoint donc, violent et de la victime violente, en ordonnant au conjoint qu'il quitte les lieux et éventuellement qu'il continue à payer le loyer d'ailleurs. Donc c'est une avancée apparemment sans commune mesure avec ce qui existait avant, en cas d'urgence. La loi stipule bien qu'en cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut donc avoir une fonction pénale, ce qui déstabilise d'ailleurs complètement les juges aux affaires familiales qui ne sont pas du tout habitués. Et en l'occurrence, parmi d'autres possibilités qui lui sont données, peut enjoindre, obliger, donc l'auteur des violences, à quitter le domicile conjugal ou bien peut ordonner une mesure d'hébergement pour la victime qui ira dans un centre d'hébergement, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qui est intéressant sur cette ordonnance de protection, je suis allée un peu fouiller, il y a même les formulaires en ligne. Donc on peut aujourd'hui, depuis chez nous, nous femmes violentées, puisque ça s'adresse spécifiquement aux femmes, saisir un juge aux affaires familiales. Et la loi stipule que dans les meilleurs délais, le juge doit statuer. Sauf que, et c'est là au fond qu'on retrouve la difficulté de la binarisation, même quand on a les requêtes en ligne. On ne peut pas faire mieux d'une certaine façon. La loi est là. Le formulaire est en ligne. Il y a même maintenant des télédéclarations, des numéros grande urgence, ça s'appelle, ou avec des bip-bip que des femmes violentées par leur conjoint peuvent appeler. Je veux dire, le numéro, je ne sais plus comment il s'appelle ce numéro, peu importe. Et quand on regarde écrit en plus petit, il faut néanmoins que la victime apporte les preuves lors même qu'elle dépose sa requête en ligne, d'une part qu'elle est bien victime de violence et d'autre part qu'elle est en situation d'urgence. Au fond, même dans le domaine civil, quand on veut essayer non pas de raisonner en termes de faute et de sanction de l'auteur, mais de protection des victimes, parce qu'il est évident que la première chose qu'une victime de viol dans le cadre conjugal en ligne, c'est que ça s'arrête et d'être protégée de son violeur. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour le deviner. Et bien, même quand on met en place cette ordonnance de protection qui est juste sur le plan légal, néanmoins, les femmes sont obligées d'apporter des preuves de ce qu'elles sont. Et ces preuves, c'est attestation des médecins, donc trace de coups, témoignage, main courante ou plainte. Et ensuite, il faut qu'elles puissent prouver qu'elles étaient en situation d'urgence. C'est-à-dire que de toute façon, le fonctionnement judiciaire, là aussi, même dans le meilleur des cas qui puisse être élaboré pour les victimes sont quand même tenues d'aller, comment dirais-je, valider et affirmer leur parole avec des preuves. On n'en sort pas et je ne vois pas comment on pourrait en sortir au regard des principes du droit tels que fonctionne la procédure aujourd'hui, même la procédure civile. Et j'ajoute que les JAF sont un peu boulot, tourneboulés, parce que jusqu'à présent, ils avaient pour mission de raccommoder les familles. Et là, on leur dit, vous pouvez séparer les familles. Après, ils vont très bien. Bon, voilà, c'était, je refermais la parenthèse.
Il y a une autre parole à Pierre Fournier, puis Joseph.
Merci beaucoup pour cette exposé. J'ai rapidement un autre chose. Il du travail de clarification, de mobilisation, était remarquable. Alors, évidemment, je me dis, qui apprend quelque chose dans cette recherche? Moi, ok. Mais à part moi, par exemple, est-ce que les professionnels de cet univers apprennent quelque chose dans cet exercice de catégorisation comme vous avez fonctionné, d'avocat, ici, je ne sais pas. Et du coup, je me dis, mais au fond, la catégorisation, c'est une activité sociale. Donc, est-ce que vous avez fait, parce que vous avez une partie d'entretien avec ces professionnels de la chaîne judiciaire et autour, quelque chose comme comment vous placez c'est quelle explication vous donner qui aboutit au résultat qui a l'air bizarre, des adénines, bon, etc. Donc on verrait chacun des groupes faire peut-être ses propositions de classement et on verrait si les catégorisations que vous avez retrouvées dans votre recensement sur cas coïncident ou pas avec les catégorisations de fond, enfin des acteurs indigènes. Ça pouvait peut-être être un élément où je dis bon, le travail d'objectivation que vous menez vient se confronter ou pas au travail des acteurs. Bon, du coup, j'en profite pour poser une question parce qu'elle m'a intrigué, mais peut-être que la discussion qu'on vient d'avoir sur le juge Fanuel y répond un peu. Je me dis, mince, mais alors la convocation du viol sur mineur par ascendant dans des histoires de séparation conjugale qui se passent mal, ou la convocation du viol du conjoint dans des histoires de séparation qui se passent mal, avec des enjeux de garde d'enfants, avec des enjeux de pension. on en fait quoi? Est-ce que ça rentre dans cette affaire-là? Et est-ce que là, précisément, bah, le classement par une autorité judiciaire qui trouve qu'on l'instrumentalise un peu trop et, est bienvenu? Donc finalement, c'était une question très précise. Deuxième remarque que je voulais faire, c'était sur les possibilités finales. Est-ce qu'on pouvait imaginer d'autres et donc peut-être éviter tout, enfin, faire tout ce qu'on peut pour éviter le non-recours aux procédures. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et je signalais qu'on a dans le. Enfin, je co-dirige avec Nicolas Sfred, une doctorante sur Madame Marchand, qui travaille sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance des maladies professionnelles. Donc il y a la mémoire de la Shoah, mais il y a aussi des maladies professionnelles comme cas assez sympa pour faire des comparaisons hors secteur et qui ressentent des choses peut-être à rapprocher. J'étais intéressé par les analyses en termes de classe sociale, donc je me disais, est-ce qu'il y a homologie entre victimes et auteurs? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si on dirait homo quelque chose là autour? Et en tout cas, du côté des violences conjugales, des viols conjugaux, est-ce qu'on a des différences entre couple homogame et couple hétérogame? Et est-ce qu'on a un moyen de mesurer ça, vu que les effectifs sont assez faibles? C'est un petit débat. Et puis enfin, juste pour un petit rebond sur socio et droit, l'équipe de juristes et l'équipe de sociologues, signaler un numéro récent, le dernier numéro d'ethnographique.org sur les recherches collectives, donc les enquêtes collectives, bien des expériences de recherche avec entre disciplines différentes, etc.
Et on raccroche une dernière question.
Voilà, très brève, hein, qui rejoint en partie la première question de Pierre. En fait, En fait, je voulais juste en savoir un peu plus sur le travail que vous avez mené sur ces archives, donc, qui ont l'air assez conséquentes, mais visiblement, vous aviez fait des recherches avec encore plus de dossiers. Et peut-être l'harmonisation à laquelle vous aviez pu procéder sur un matériau. Enfin, je veux dire, dans les dossiers, il n'y a pas toujours les mêmes pièces, comment on y travaille, comment on peut même être amené à réécrire à partir de pièces très diversifiées, des trajectoires, des carrières de victimes. Voilà, on peut nous donner des éléments là-dessus, parce que nous sommes quelques-uns à travailler sur archives ici, et on profiterait bien de votre expérience.
Je ris bêtement, parce qu'il est clair qu'il y a eu quelques confrontations aux équipes sur les trajectoires, sur des situations de viol. Ça peut très mal se terminer, cette affaire. Mais comment tu peux dire que c'est pas un viol? Comment tu peux dire que c'est un viol? Alors, c'est vrai que c'est un matériau sensible. Alors, ça étant, dans les dossiers, on a les mêmes pièces. On a les mêmes pièces à chaque fois. Dans les dossiers, un dossier judiciaire, on a des pièces de forme qui disent voilà ce qui a été fait, puis il y a ce qu'on appelle les pièces de fond. Et les pièces de fond, ce sont des récits, je le redis. Donc forcément, des récits qui sont, alors, en réalité, des auditions, avec des questions et des réponses, pour les interrogatoires menés par les services de police ou les auditions menées par le juge d'instruction. Ce que nous ignorons en revanche, c'est que la loi stipule que la retranscription écrite de ces auditions doit être validée par les parties qui ont collaboré à l'audition. Autrement dit, avant qu'il y ait retranscription écrite pour une audition devant un juge d'instruction ou pour un interrogatoire devant un officier de police judiciaire, il faut que l'auteur présumé et la victime présumée soient d'accord avec les termes. Ce que nous ne savons pas, c'est concrètement ce qui s'est passé dans la relation. On n'était pas là, je veux dire, clairement. De la même façon que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand une victime est accueillie dans un commissariat ou une brigade? Nous n'en savons strictement rien. Nous n'avons que le produit final et arrangé, si j'ose dire, traité par le juge d'instruction lui-même et souvent par le greffier et la greffière qui tape. Il y a tout ça dans toutes les étapes, effectivement, de ce qui arrive à un procès verbal d'audition. Et c'est sur la base de ce matériel-là, principalement, que nous avons nous-mêmes mis en place une grille de dépouillement des dossiers. C'est-à-dire que nous avons listé un certain nombre de points à recueillir. Alors, dans ces points, il y en avait très objectifs, pas très objectifs. Le sexe des protagonistes, l'âge des protagonistes, qui n'est pas si facile que ça à déterminer pour que les faits soient un peu anciens, d'autant que c'est un enjeu de procédure pénale, très clairement. Si la victime est une mineure de moins de 15 ans ou plus de 15 ans, ça change un peu, ça change des choses, les circonstances aggravantes ou pas. On a établi comme ça, je ne vais pas la passer en vue, une série comme ça d'éléments plus ou moins objectivables. Et puis, il y a des choses qui ne sont absolument pas objectivables. Donc, c'est clair qu'en plus du récit judiciaire, du récit de la victime, du récit de l'auteur, il y a notre récit bien évidemment. C'est pour ça que je vais être extrêmement prudente dans la façon dont je vais restituer ça. Et que, je souriais, hein, et dans nos restitutions, par exemple, un exemple que je peux vous donner, l'équipe de Lille a décidé, dans la monographie lilloise, très intéressant ça, au sein, pour le travail collectif d'équipe, a décidé d'extraire de son corpus d'analyse les victimes dont la justice dit qu'elles ont menti. Elles disent, bah, au fond, elles ont menti, donc il n'y a pas viol, et on ne les rentre pas dans notre corpus. Quand je dis ça, je dis, bah, moi, je les rentre. Je les rentre parce que j'estime que ce qu'on appelle mensonge est peut-être partie intégrante de la dynamique judiciaire. Pas rien de dire qu'on a menti ou qu'on n'a pas menti ou qu'on a menti un peu. Elles décident de l'exclure. Ce sont des juristes, elles. Voilà un exemple, si je puis dire.
Ouais.
Et je leur dis, mais pourquoi vous excluez? Bah, elles mentent, donc il n'y a plus d'infraction, c'est fini. Je dis, oui, mais sociologiquement, psychosociologiquement, si elles disent qu'elles mentent, d'abord, on leur a fait chier dire qu'elles mentaient. Ça s'est terminé. Voilà un exemple, une illustration de ce que nous-mêmes, au fond, avons. C'est pour ça qu'il va y avoir des rapports séparés, ça va être chaud, hein, la restitution. Et que moi, j'assume le fait que j'intègre la petite proportion, mais enfin réelle quand même, de victimes qui disent avoir menti, mais dans des auditions qui ne sont jamais que des réponses à des questions qui leur sont posées par des enquêteurs. Voilà le matériau sur lequel on bosse. Donc effectivement, en toute rigueur, nous ajoutons notre propre récit des faits, d'où les petites divergences. Certaines ne peuvent pas entendre, par exemple, quand je dis, moi, je pense qu'il y a des victimes qui ne souhaitaient pas porter plainte, d'autres disent, comment tu peux estimer que les victimes ne voulaient pas porter plainte? Je dis, bah, au vu de ce que je comprends, de ce qui est dit dans l'audition, j'estime que. Voilà, hein, c'est le récit du récit du récit. Et bien évidemment, il faudra prendre toutes ces précautions qui ne sont pas que des précautions oratoires pour dire au fond que nous avons ajouté notre propre partie. Ce qui serait intéressant, tu as parfaitement raison, et j'espère bien pouvoir le faire, c'est de restituer ce travail devant, de toute façon c'est toujours quelque chose de bien, entre guillemets, à faire, d'utile à faire, devant les personnes que nous avons interviewées. Pour effectivement voir comment ils vont recevoir les typologies, les catégories d'action, les raisons que nous avons trouvé, en réalité, je devrais dire que j'ai trouvé, parce que je ne suis même pas sûre qu'elle soit partagée par toute l'équipe, parce que je dis que la restitution va être un peu compliquée, devant ceux qui m'ont fourni une partie du matériau me permettant d'arriver à ces raisons-là. Donc le travail n'a pas été fait. J'aimerais bien que ce travail puisse être fait, et je vais tout faire, en tout cas sur Nîmes, puisque c'est là que ça a été mon terrain loin, pour que je puisse aller renvoyer ça devant l'institution judiciaire et pour voir ce qu'elle aurait. Je ne sais pas si j'ai oublié des points, dans ce qui, du coup, je n'ai pas pris de notes, pardon, en particulier.
Les histoires de provocation du viol sur mineur.
Alors, on en a dans nos dossiers, on en a effectivement dans nos dossiers classés. Alors, non, parce que je ne pouvais pas prendre toutes les occurrences, effectivement, mais le fait est que dans les dossiers classés, on a ce que j'ai appelé moi des affaires avec des victimes désignées. C'est-à-dire des affaires avec des victimes mineures, dont le peu de choses que l'on a d'ailleurs dans un dossier classé, parce qu'avoir une grille de dépouillement sur les dossiers d'assises, c'est facile, hein, sur un dossier classé, parfois il y a deux feuillets, et encore parfois il y a un feuillet. Ça fait partie, Laurent, des fameux dossiers où mon ami, moi j'ai dit je ne traite pas ce dossier avec un feuillet, il faut arrêter de faire n'importe quoi aussi parfois. Voilà, donc j'ai dit, ça fait partie des dossiers énigmatiques sur lesquels on n'a rien à dire, parce qu'on n'a pas de matière pour dire des choses. C'est une toute petite minorité, ça étant de dossiers, pour répondre à ta question, la proportion des dossiers sur lesquels on demeure énigmatique. Donc on a effectivement, en proportion, je ne sais plus, de toute façon je me méfie beaucoup des proportions dans cette recherche, des dossiers dans lesquels des mineurs, d'ailleurs qui ne peuvent pas porter plainte tout seuls, hein, en justice, vont porter plainte. En général avec l'appui, le soutien, voire l'incitation très forte de la mère, dans le cadre d'un contentieux, voire d'une procédure de divorce ou d'une procédure de séparation, ou un contentieux au sujet de la garde des enfants contre le père. Et là, il est vrai que, dans ce qu'on peut comprendre des dossiers, les parquetiers ont tendance à se retirer assez rapidement de ces histoires, en disant « qu'est-ce que c'est que cet embrouillamini ?» Et franchement, parfois, pour s'y retrouver, c'est un vrai embrouillamini. Il suffit, pour peu que les familles s'en mêlent, c'est un embrouillamini, comme Constance l'évoquait, de ces situations, parce que on sent ces mineurs qui eux-mêmes, d'ailleurs, disent pas forcément qu'ils ont été violés, mais ce sont les mères qui les disent, les pères disant non, tout ça sur un fond de procédure. Alors ça, les acteurs de la chaîne pénale en parlent beaucoup, avec d'ailleurs un regard, j'étais assez surprise de ça, un regard assez dur sur des femmes, disent-ils, sur ces mères, je ne sais pas pourquoi plus sur les mères, parce que j'imagine que c'est, de toute façon, c'est plus les femmes aujourd'hui qui sont en demande d'instance de divorce. Hein. Ça, c'est dans les statistiques, pour le coup. Et ils ont un regard assez dur sur ces mères qui viennent embarrasser la justice, encombrer la justice, avec des enfants manipulés pour des histoires de viol qui sont nulles et non avenues. Ce qui ne veut pas dire que l'enfant n'a pas été violé non plus. Hein. Mais il est pris dans un tel imbroglio familialo, affectivo, symbolico, ce que vous voulez, que quel fil peut-on démêler de ça ? Voilà, quel fil peut-on démêler de ça ? En revanche, moi je pense que la voie, pour le coup, de la médiation, de la réparation, du travail thérapeutique intrafamilial aurait du sens. D'ailleurs, il y a des juges des enfants qui ont je pense, un très très beau livre de Laurence Bellon, qui était juge des enfants à Lille il y a encore quelques années, où elle explique que beaucoup d'affaires sexuelles avec des victimes mineures, de son point de vue, n'ont rien à faire au pénal. N'ont rien à faire au pénal parce que le pénal va mettre de l'huile sur le feu, c'est moins qu'on puisse dire, et ne réglera pas de toute façon, voire même pourra envenimer, l'espèce de situation extrêmement problématique sur la place de chacun, sur les affects des uns et des autres, sur la place de l'enfant par rapport aux parents. Elle dit en tout cas, en sus de la voie pénale, pourquoi n'arrivons-nous pas encore, ou très peu aujourd'hui en France à ma connaissance, il faut peut-être creuser, mais je n'ai pas fait ce travail, mettre en place, ça existe dans des associations, ça existe dans des cabinets de psy, ça existe, je sais que, on sait que Coutenceau fait ça par exemple auprès d'ados, mais mettre en place des espèces de réparation familiale. En plus ou en remplacement de la voie pénale. Me semble-t-il, pas mal de juges et enfants en appellent à cette voie civile, au fond, hein, qui viendrait à minima suppléer la voie pénale, dont il s'avère en réalité dans cette affaire intrafamiliale qu'elle fait parfois beaucoup plus de mal que de bien. Voilà, la fameuse place symbolique, etc.
Bon, si vous en êtes d'accord, on remercie
Merci beaucoup.
Bernice, merci. Merci également, Constance de Roussy, pour cette discussion.